Nous sommes avec Héloïse Mas qui va interpréter le rôle de Carmen dans l'opéra de Bizet à l'opéra de Marseille du 16 au 26 février. Donc Héloïse, vous avez un parcours atypique. Vous avez commencé par des études de piano et d'orgue, puis vous avez bousculé dans le chant. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie et quel a été le déclic pour le chant lyrique ?
Alors bonjour, merci de votre accueil. C'est vrai que j'ai commencé par le piano tout simplement parce que c'était un instrument qu'on avait à la maison. Ça tenait beaucoup à cœur à mes parents que mes sœurs et moi fassions de la musique et on a toutes pu choisir un instrument. Ma sœur la plus aînée et moi-même avons commencé par le piano. Mon autre sœur a fait du violon. Et puis moi j'ai continué par de l'orgue parce que c'était un instrument qui m'intriguait énormément. Au niveau du son, au niveau de la qualité, de la texture sonore et de la technique. On utilisait tout le corps, donc les mains, les pieds, tout ça. Et puis, après, pour le déclic, j'ai toujours beaucoup aimé chanter. J'ai toujours fait partie de chœurs d'enfants, de chorales. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que une des raisons pour lesquelles j'aimais apprendre un instrument, un clavier, c'était que j'aimais bien m'accompagner, en fait, pour chanter de la pop ou des choses comme ça. J'aimais bien ce genre de choses. Et donc, j'aurais bien voulu, finalement, peut-être apprendre à chanter. En tout cas, mieux chanter, parce que on apprend toujours à imiter les chanteurs qu'on entend à la radio. Hein. Moi, mes premiers professeurs de chant, c'était Christina Aguilera et toute la compagnie de cette époque-là. Hein. Mais c'est vrai qu'après, je me suis dit, l'opéra, on en entendait un peu à la maison, puisque mes parents en écoutaient quand même pas mal. Et puis, je me suis dit, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la musique. J'ai clairement pas la même voix que les filles que j'entends à la radio. Ça s'entendait déjà à l'époque. Et donc, en fait, je me suis dit, pourquoi pas essayer de se former au chant, à l'opéra, au chant lyrique, parce que c'est le meilleur des deux mondes. On fait du théâtre et on chante. Donc, voilà, c'est un peu là-dedans que je me suis lancée. On a attendu... c'était important pour ma mère, qui, elle est médecin, donc elle sait... C'était important pour elle qu'on attende la mue féminine, donc qui est plus tard que la mue des garçons, qui est plus discrète, mais qui existe. Donc j'ai commencé le chant quand j'étais au lycée, quand j'étais en seconde, au conservatoire Gautier d'Épinal, avec Robert Bosquero. Et puis je m'y suis vraiment très très bien sentie. Je veux dire, c'était exactement là où je devais être. Hein. C'était de l'acting. J'ai toujours été assez extravertie. J'ai toujours été. C'est pas le côté actrice qui a été le plus difficile à apprendre pour moi. Clairement, c'était quelque chose qui me venait assez naturellement. En revanche, c'est vrai que ça m'a pris tout ce temps. Et puis, j'ai pas décidé tout de suite de faire du chant lyrique. Hein. J'ai fait des études de médecine. J'ai fait ma première année de médecine. Ensuite, j'ai fait des études de commerce parce que ça tenait à cœur à mes parents aussi que j'ai un petit diplôme de secours, on va dire. J'ai trouvé des études qui correspondaient à ce dont j'avais besoin. J'ai fait mes deux premières années d'IUT en France, en technique de commercialisation. Et ensuite, je suis partie un an en Italie pour avoir l'italien courant, pour préparer mon entrée en conservatoire. Donc, de là, je suis rentrée au CNSM de Lyon, donc le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, dans la classe d'Isabelle Germain et de Fabrice Boulanger. Et donc, tout ça s'est décidé à la fin de ma première année de médecine. Donc, moi, j'ai décidé de faire du chant de ma vie grâce à Elena Vassilieva, que j'ai rencontrée au détour d'une masterclass. Je suis rentrée de ma première année de médecine et le premier truc que j'ai fait, c'est demander un cours de chant à Robert en lui disant « ça fait 8 mois que j'ai pas fait une vocalise, ça me manque », etc. Et en fait, il était pile dans son spectacle de fin d'année et il me dit « il nous manque quelqu'un, elle est tombée malade, est-ce que tu pourrais pas faire les parties de chœur on a trouvé d'autres gens pour faire les solis ». Et c'était un concert qui était, on va dire, l'aboutissement d'une masterclass, d'une série de masterclass qu'avait donnée Elena Vassilieva à la classe de chant cette année-là. Donc il a insisté pour qu'ensuite je chante devant cette dame le lendemain du concert. J'avais rien de prêt, j'étais là, je ne sais plus chanter, ça fait un an que je n'ai pas chanté, je ne sais pas, j'ai rien de prêt. Je crois que je me souviendrai toujours d'avoir fait les couplets de cette aria extrait de Jean de Nivelle, un truc complètement inconnu qui est vraiment pas une œuvre d'art. Mais j'ai pas dépassé la première phrase. Hein. Elle m'a fait travailler la première phrase pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, elle m'a dit, masse, quand on a un instrument comme le vôtre, on le travaille. Donc bon, ça a été plus compliqué que ça. Hein. Je vous passe les conversations avec mes parents, les convaincre, etc. Et puis après, bah, effectivement, les années d'UT, puis l'année en Italie, puis l'entrée au sud de Lyon. Et puis c'est là que les choses se sont faites. Mais c'est vrai qu'en fait, les gens parlent souvent d'un déclic. Et j'ai pas vraiment eu, moi, dans ma vie, un déclic. Les choses se font par peut-être petit déclic, mais c'était pas un grand virage comme certaines personnes peuvent parfois le décrire, ou une évidence. Ou les choses se sont vraiment faites au fur et à mesure, grâce à des personnes que j'ai rencontrées, grâce à des conversations que j'ai eues, grâce à des belles opportunités que j'ai eues aussi. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Les gens que j'ai rencontrés ont toujours été assez extraordinaires, et plein de belles informations et aussi de soutien et voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance là-dedans. Donc j'ai pas vraiment eu ce fameux grand déclic, mais plutôt une série de tout petits déclics qui m'ont amené jusqu'ici.
Vous avez aussi eu pas mal de prix.
J'ai aussi eu la chance effectivement d'être primée au concours Reine Elisabeth, qui m'a apporté beaucoup également, beaucoup de visibilité, beaucoup de belles opportunités, notamment en Belgique. Donc oui, après c'est vrai que j'ai une relation très, très, très intéressante au concours en général. En fait, je suis probablement la chanteuse qui a déclaré forfait le plus souvent. Je ne sais pas ce qui se passe. Je m'inscris au concours et puis je suis obligée de déclarer forfait parce que je suis sur scène, parce que j'ai d'autres engagements, etc. J'ai été sélectionnée pour la demi-finale nationale des Voix Nouvelles il y a quelques années. J'ai dû déclarer forfait parce que j'étais en production à Lille. J'avais été sélectionnée pour BBC Cardiff of the World. Il y a quelques années, pareil, j'ai dû déclarer forfait parce que j'étais sur scène au moment de la finale à Lyon. Et je crois que j'ai au moins 4 ou 5 concours comme ça dans mon parcours auxquels je me suis inscrite. J'étais prise, j'ai dû déclarer forfait. Donc bon, c'est très dommage et c'est très frustrant, parce que les concours apportent notamment beaucoup de visibilité, beaucoup de... Mais bon, je n'ai pas pu y aller parce que je travaillais, et je peux vraiment pas m'en plaindre parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire quelque part. Donc moi, j'ai commencé à travailler avant la fin de mes études. Mon premier contrat était en 2012, alors que j'étais en licence au SUB de Lyon. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote drôle parce que moi, ça me fait beaucoup rire. Ce premier contrat m'a été offert par quelqu'un qui est maintenant un de mes meilleurs amis. C'est Benoît Pénichoux, le metteur en scène, qui est aussi un ancien ténor. Il se trouve qu'il avait été invité au Conservatoire de Lyon, enfin au CNSM de Lyon, pour mettre en scène des scènes lyriques, la production annuelle du Conservatoire. Et puis, à la suite de ça, il m'a appelé quelques mois plus tard en me disant « Écoute, Héloïse, il se trouve qu'on fait une reprise d'une de mes productions à Caen. Et la mezzo n'est pas libre. Et donc, j'ai proposé ton nom. » Et donc, cette production a eu lieu en octobre-novembre 2012. Et j'ai fêté donc mes 10 ans de carrière, puisque ceci était mon premier contrat officiel d'artiste lyrique. Et j'ai fêté mes 10 ans de carrière là, en octobre-novembre, enfin en novembre-décembre 2022, dans une production à l'Opéra de Nice, mise en scène par Benoît Bénichoux. 10 ans plus tard, on a fêté mes 10 ans de carrière dans une production ensemble. C'était lui ma première production, et pratiquement au mois près, au jour près, j'ai fêté mes 10 ans de carrière dans une production mise en scène par lui. Ce qui est comme... Moi c'est une histoire que j'aime bien, parce que je trouve que c'est assez représentatif de ma vie. Je rencontre des gens qui rentrent dans ma vie, qui provoquent des choses assez extraordinaires, et qui reste dans ma vie et qui continue de m'apporter des choses assez extraordinaires. Donc je trouve cette anecdote assez, assez incroyable.
C'est amusant en plus comme type d'anecdote par rapport à la vie. On a
bien sûr
aussi les rencontres.
Et absolument.
Puis, le hasard en fait, l'heureux hasard, on peut dire. Mm-hmm. Donc on va peut-être un peu parler de Carmen.
Ah bah oui.
Qui est un opéra, qui a une histoire assez particulière, puisqu'au début il était hué, puis comme l'avait prédit Tchaïkovski, c'est devenu l'opéra le plus populaire au monde, un opéra français en plus. C'est aussi un des rares opéras qui donne le premier rôle à une mezzo, comme chez Rossini. Chez Rossini, c'était sa femme qui était mezzo, donc les rôles étaient écrits pour sa femme. Mais il y a très peu d'opéras finalement où le premier rôle est tenu par une mezzo. Ils sont souvent cantonnés au second rôle. Et donc là, pour Carmen, donc, on a besoin d'une mezzo. Qu'est-ce qui vous séduit dans cet opéra-là? Et qu'est-ce qui vous plaît aussi dans le personnage de Carmen, qui est un personnage, une femme libre, séductrice et amoureuse?
Alors, on parlera juste après de ma vision de Carmen, qui n'est pas forcément celle de tout le monde. Mais alors, moi, je suis d'accord avec le fait que ce soit un opéra. Il est assez universel dans son thème, en fait. Hein. C'est l'amour, c'est... La musique est extraordinaire. C'est vraiment... C'est un opéra français, mais avec beaucoup, beaucoup d'Espagnol, beaucoup d'Espagne dedans. Et puis, plein d'autres choses. Parce que l'amour, c'est, comme je le disais, très universel. Après, voilà, moi, la vision que j'ai de Carmen est quelque chose, peut-être... Oui, je pense que quand on chante un rôle, on a toujours une approche qui est assez viscérale d'un rôle, puisque ça passe à travers nous, physiquement, on est obligé de produire quelque chose. Quelque chose que je ne retrouve pas forcément toujours souvent dans des mises en scène, qu'on voit un peu ici, vraiment, c'est même plutôt bien abordé par Jean-Louis Grinda. Carmen, elle n'est pas monodimensionnelle. Elle est très, très, très... elle a beaucoup, beaucoup de facettes. Qu'elle ne montre pas beaucoup. Qu'elle ne montre que par fragments, par moments. Et il faut savoir lire entre les lignes avec Carmen. Pour moi, personnellement, Carmen est une femme blessée. C'est une femme blessée. On ne devient pas quelqu'un d'aussi dur et d'aussi intransigeant sans, auparavant avoir été blessée très, très profondément. Donc pour moi, Carmen, c'est quelqu'un qui cherche l'amour vraiment. Elle n'est pas juste dans ce côté de la séduction. Alors la séduction l'amuse parce qu'elle a compris que c'était la première étape. Elle a compris aussi que beaucoup de gens s'y arrêtaient. Mais elle, ce qu'elle cherche, c'est l'amour véritable. Et quand elle trouve quelqu'un et qu'elle pense que ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne, l'échec derrière... est vécue comme une trahison et l'échec est d'autant plus intense. Donc quand elle pense enfin avoir trouvé en Don José quelqu'un qui va l'aimer à la hauteur de ce qu'elle espère être cet amour véritable, quand finalement il s'avère que cet homme n'est absolument rien de ce qu'elle espérait, la blessure est... Et d'ailleurs, elle est très intransigeante. Elle lui dit de s'en aller. À un moment, elle lui dit clairement « va-t'en ». C'est bon, on va s'arrêter là parce que c'est pas bon. Là, on va pas du bon côté. C'est par l'arrivée de Zuniga, parce qu'elle est forcée, elle le force à venir avec eux, mais à ce moment-là, elle sait déjà que ça va pas continuer, ça pourra pas continuer. Cette personne-là n'est pas la personne qu'elle espérait. Mais encore une fois, elle est extrêmement intransigeante parce qu'elle est blessée. Et donc je pense que cette dimension du personnage, pour moi, apporte une grande compréhension à tout ce qui se passe autour, dans tout ce qu'elle fait. Elle joue, mais c'est une façade. Elle rit, elle sourit, mais ce n'est qu'un jeu et ce n'est qu'une façade. Elle séduit pour essayer de voir qui... C'est un petit peu comme lancer un truc sur une vitre pour voir si ça colle, quoi. C'est vraiment, c'est pas très glamour, mais c'est un peu ça. Elle séduit, et parmi tous les gens qu'elle séduit, la façon dont les gens vont répondre à cette séduction va lui indiquer si ces personnes-là ont quelque chose derrière. Et les gens qui tombent un peu trop facilement dans la chose, pour elle, ne sont pas intéressants parce que ça prouve qu'en fait, ils s'arrêtent qu'à la surface. Donc voilà, et c'est ce qui l'attire d'ailleurs chez Don José au départ, parce qu'il tombe pas dans le panneau. Et donc elle veut aller voir plus loin. Ce qu'elle trouve plus loin, c'est un type un petit peu nerveux, qui est un truc qui lui répond bien, qui lui correspond bien, parce qu'elle, elle est quelqu'un de très forte, de très investi. Donc quand il y a ce truc un peu nerveux qui arrive derrière, elle se dit, ça c'est peut-être pas mal. Sauf que derrière le truc nerveux, il y a le truc violent. Ce qui, à la limite, comme elle a du répondant, voilà... Sauf que derrière, en plus, il y a le manque de conviction. Et alors, c'est ça. C'est le manque de conviction qui, derrière, va... Enfin, de conviction, en tout cas, de en anglais, on dit dedication. C'est vraiment la façon dont il va mettre... Et ce ne sera pas, elle, sa priorité. Alors qu'elle, elle sait que si elle trouve le vrai amour, ça va être ça, sa vraie priorité. Il n'y aura plus rien d'autre. Elle a, d'ailleurs, toute sa vie, s'est trouvé ce fameux véritable amour. Donc, il y a cette profondeur chez elle, cette sorte de laser aussi vers... La vie, c'est mettre un pied devant l'autre. Il y a ce qu'il y a devant toi, il y a ce que tu voudrais, il y a ce dont tu rêves, il y a tout ça, il y a tout ce qu'il y a autour aussi, tout ce qui brode, mais la vérité, c'est ce que tu as devant toi. Et tout ce que tu peux faire, c'est soit avancer vers ça, soit t'arrêter tout seul. Mais elle s'arrêter, c'est pas son délire. Donc elle avance. Elle avance, et il y a ce qu'il y a devant elle, et c'est tout. Et on le voit dans l'air des cartes. C'est amusant parce que c'est pas forcément l'air des cartes qui est le plus connu. Hein. Tout le monde connaît la Banera. Je pense que la Banera est probablement l'air le plus connu au monde. Et puis derrière, il y a la Ségodille. Mais l'air des cartes est probablement, quand on écoute tous les gens qui parlent de Carmen, qui ont vu Carmen, ils me disent, oh, ça doit être mon air préféré, etc. Parce que c'est l'air où on rencontre Carmen. On rencontre cette femme intransigeante, forte, qui n'a aucune illusion sur ce qu'est la vraie vie, qui a une forme de douceur un peu nostalgique, mais sur lequel elle ne s'attarde pas. Quand elle dit « la carte sous tes doigts se tournera joyeuse, t'annonçant le bonheur », il y a la façon dont Bizet a écrit ça avec ce piano, cette douceur, etc. Moi, je souris quand je chante cette phrase parce que, pour moi, c'est un petit peu ce que je ressens. Je pense que c'est ce que Bizet voulait exprimer à ce moment-là. Cette sorte de... Elle a connu cette douceur. Elle a connu un bonheur, mais pour elle, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui n'est pas resté dans sa vie, qu'elle n'a pas réussi à tenir. Et ça, c'est... Voilà, l'air des cartes, vraiment, c'est l'air où on sait qui est Carmen. Et le final, où il y a beaucoup, 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 beaucoup de sous-textes. Il est très, très, très chargé, ce duo final. On peut s'arrêter à la surface. Ce sera aussi très, très, très beau. C'est très, très intéressant, ne serait-ce que de s'arrêter à la surface. Mais si on commence vraiment à lire entre les lignes, c'est chargé. C'est très chargé.
Vous avez beaucoup travaillé donc sur le personnage de Carmen. C'est pas une prise de rôle.
Non.
Et comment est-ce que vous l'incarnez, justement, au niveau du jeu théâtral et au niveau vocal?
Alors, c'est pour ça que je disais, voilà, j'ai beaucoup parlé de mon avis personnel quand je vous ai décrit pour moi qui était Carmen, parce que ce que je présente sur scène dans une production, c'est pas juste ma vision de Carmen. Moi, j'y apporte quelque chose de toute façon par ma technique vocale, par ma couleur vocale, par qui je suis énergétiquement, voilà. Mais ce que vous voyez, c'est un triptyque, c'est un travail de en trio. Il y a le metteur en scène, il y a le chef d'orchestre, et il y a moi. Et si on veut même, c'est même un quatuor, puisque bah, derrière, il y a Bizet, le livret, enfin voilà, c'est un boulot d'équipe. Hein, voilà, on a tous une lecture, et alors moi, ça fait partie un petit peu de mes principes, on va dire, professionnels. Moi, je suis interprète de la musique, et j'ai aussi eu des propres projets, des projets à moi, où j'espérais que les gens allaient m'aider à défendre ce que moi, je voulais dire à travers ce projet. Et donc, ça me tient énormément à cœur de défendre la vision du metteur en scène. C'est hyper important pour moi. Je vais me donner à 500% pour défendre la vision du metteur en scène. Et puis, bah, il faut aussi défendre la vision musicale du chef d'orchestre, bien entendu dans la limite de notre technicité, de nos capacités. Mais effectivement, je me considère comme étant là pour défendre aussi, surtout, leur vision de l'œuvre, leur interprétation. C'est génial quand on a des metteurs en scène avec qui il y a un vrai dialogue et qui s'adaptent à la personne qu'ils ont en face. Et ça, Jean-Louis Grinda est très, très fort pour ça. Lui, il va te dire, voilà, moi, ce que je vois, etc. Ensuite, la physicalité de la chose va se travailler avec lui. Il va dire, tu vois, là, ce que t'as fait, ça me convainc pas, mais ce que t'as fait juste derrière, c'était vachement bien. Et donc, on va commencer à construire ensemble quelque chose. pour défendre sa lecture. Et c'est pareil avec le chef d'orchestre, en fait. Il va nous dire, voilà, moi, ce que je voudrais faire ici, c'est ça, c'est comme ci, comme ça. On va commencer à trouver nos marques, on va faire des propositions, on va lui dire, à ce moment-là, tu vois, il faut que je fasse comme ci, comme ça sur scène, est-ce que ce serait pas possible de... Il va dire, OK, mais alors derrière, il faut que tu fasses comme ça. Et voilà, c'est un peu un jeu de give and take, comme on dit en anglais, un prêté pour un rendu. On travaille tous ensemble pour défendre une vision... mais on construit ensemble.
Oui, c'est une vision plurielle, finalement, puisque chacun apporte sa vision
de l'œuvre. Une pierre à l'édifice, voilà.
Et en même temps, c'est un travail d'écoute les uns des autres, finalement, puisque vous n'êtes pas tout seul. Metteur en scène n'est pas seul, comme le chef d'orchestre.
Absolument.
Il a besoin des interprètes. Et vous le jouez à Marseille, vous l'avez déjà joué avant, Carmen, dans une autre mise en scène.
Absolument. À Genève, au Grand Théâtre de Genève. C'était il y a quelques temps, puis j'ai eu la chance de faire des petites, ce qu'on appelle des versions de poche, donc avec moins de personnages, parfois juste un piano, parfois des petits ensembles instrumentistes. Et à chaque fois, c'est une vision différente, et à chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau, vocalement, physiquement, émotionnellement. Et ça, c'est le cas de tous les rôles, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir retraverser ce rôle, redécouvrir ce rôle plusieurs fois. Ce qui fait que quand j'arrive devant quelqu'un qui a une vision différente, j'ai aussi plein d'outils pour m'aider à défendre cette vision.
Vous aviez présenté d'ailleurs un air pendant la musique, en fait.
Absolument, à Orange l'été dernier. J'ai eu la chance de pouvoir interpréter la Banera dans le théâtre antique d'Orange en direct sur France 3. C'est toujours terriblement intimidant. Et puis c'est toujours un grand bonheur de pouvoir interpréter Carmen en public, parce que le public donne une dimension encore différente à Carmen.
Oui, puis l'énergie qui émane du public, ça,
absolument.
Ça donne aussi une autre dimension au chant.
Absolument. On est fait pour être entendu. C'est-à-dire que on peut mettre toutes les émotions du monde à l'intérieur de ce qu'on produit. S'il n'y a personne pour l'entendre, on n'existe pas. Et puis, c'est vrai que nous... Alors ça, c'est quelque chose que je rappelle souvent, notamment quand j'ai des jeunes chanteurs qui viennent me demander des conseils. On existe très rarement par nous-mêmes, nous, les chanteurs lyriques, à part quelques pièces très, très, très anciennes, donc je parle moyenâgeuse, hein, ou quelques pièces extrêmement contemporaines, qui sont des recherches vocales, rythmiques, etc. Voilà. On est au moins avec un piano, ou d'autres voix, ou carrément un orchestre complet, et puis après, tous les gens qui nous entourent sur scène. Donc, c'est très, très rare qu'on existe seul. Et donc, déjà, par définition, notre métier est un sport d'équipe. Hein, voilà. Et ensuite, effectivement, nous n'existons que si quelqu'un nous entend. Donc, on n'existe que quand le public est là.
Et justement, vous revenez aussi à Marseille pour le 8 mars, puisque vous allez venir en tant que mezzo-invité au Palais du Pharo pour la Journée internationale des droits des femmes.
Absolument.
Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous allez faire? C'est justement la chef d'orchestre...
Clélia Cafiero, oui.
...qui va être la chef de la journée, qui aussi dirige Carmen pour la dernière représentation. Donc, ce sera des retrouvailles et en même temps, une nouvelle aventure.
Oui, alors Clélia Cafiero, qui est une chef d'orchestre extraordinaire, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques années, et on est resté en contact depuis, et donc j'étais tellement heureuse quand j'ai appris qu'elle dirigeait une des représentations de Carmen. Et puis après est venue cette proposition de concert de la Journée de la Femme, et avec elle en direction, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, vous pensez bien. Alors ça va être un concert très intéressant. Clélia va diriger au niveau symphonique des pièces de compositrice, que de la compositrice. Alors c'est très très difficile de trouver des compositrices d'opéra. On a cherché, on a Germaine Taillefer, on en a quelques-unes, mais Ça a été très compliqué au niveau de la recherche et surtout pour trouver une forme d'homogénéité au programme, parce que sinon après ça aurait fait un petit peu catalogue hétéroclite. Donc on a décidé de partir plutôt sur les grandes femmes de l'opéra. Ça c'est beaucoup plus facile à trouver, il y en a quelques-unes. Donc je vais interpréter aussi des extraits de Carmen, et puis je vais avoir la chance de réinterpréter un air que j'ai pas fait depuis longtemps avec orchestre, qui est l'air de Sappho. Donc je l'ai pas chanté avec orchestre depuis la tournée des finalistes du concours Reine-Elisabeth. Donc c'est vrai que ça remonte un peu, donc je suis contente. Et puis je vais pouvoir aussi interpréter l'air de la favorite, au Mio Ferdinando. Donc voilà, et puis on a une petite surprise en bis qui va pour mettre un peu de baume au cœur à la fin du concert. Donc voilà, ça va être un très très beau programme. Je suis vraiment aux anges d'être sous la baguette d'une chef d'une telle qualité, d'un tel calibre. Vraiment une des grandes grandes chefs actuelles qui se trouve sur les plateaux. Donc voilà, quand je vous dis que j'ai sauté sur l'occasion, je ne vous mens pas. Hein, c'est vraiment.
Et après, vous avez d'autres engagements dans d'autres opéras en France, ailleurs ?
Absolument. J'aurai la chance de faire la reprise du Voyage dans la Lune d'Offenbach à l'Opéra d'Avignon et ensuite en tournée à Neuchâtel, pour ensuite me diriger vers l'Opéra de Limoges pour jouer enfin notre Cendrillon de Massenet, qui était la production qui s'est arrêté lors du Covid. C'est la production qu'on était en train de monter et qui s'est arrêtée la veille de la Générale Piano pour nous renvoyer chez nous pour être confinés. Donc, et voilà, 3 ans plus tard, ça y est, on est là, on va y arriver. Et ensuite, je serai au Festival d'Aix-en-Provence pour chanter Margrethe dans Wozzeck. Donc, c'est ma première production au Festival d'Aix-en-Provence. Je suis très, 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 très excitée à l'idée de faire partie de ce festival. J'ai vraiment très, très hâte.
Vous avez une belle carrière hein, quand même hein, derrière vous. Et puis là, vous commencez à avoir quand même beaucoup d'engagements. Et est-ce qu'à l'étranger, vous avez des engagements à venir ?
Alors, il y a quelques petites choses qui sont pour l'instant en discussion, mais qui ne sont pas encore toutes confirmées, donc je ne peux pas trop en parler. Mais j'ai la chance d'être appelée régulièrement en Belgique, de temps en temps en Suisse, etc. Donc, j'espère bientôt continuer tout ça. J'ai peut-être une petite surprise pour l'année prochaine, on verra. J'en en dis pas plus, il faudra me suivre sur les réseaux et puis sur le site internet. Pour ceux qui n'ont pas les réseaux comme ça, je tiendrai tout le monde au courant. Mais voilà, ce sont pour l'instant plusieurs petites surprises. On verra ce qui sort du chapeau.
Et vous n'avez pas de projet personnel ?
Alors, si, j'en ai toujours beaucoup. C'est vrai qu'à la suite des Chœurs anachroniques, qui était un projet pour moi assez dantesque, avec ce court-métrage, cet album, tout en plein milieu du Covid, vraiment le projet, je me suis battue pour qu'il existe malgré le Covid, etc. Ça a été très très compliqué. J'ai eu heureusement des équipes extraordinaires qui m'ont accompagnée, qui m'ont soutenue, sans qui je n'aurais pas fait un pas dans ce projet. J'ai aidé le projet de monter d'autres choses. J'ai plein d'idées dans la tête. Il faut juste les bonnes équipes, parce que je pense qu'une des choses qui m'a manqué dans les Chœurs anachroniques, c'est que j'ai débuté toute seule et que j'ai construit l'équipe au fur et à mesure, et que je suis arrivée au bout du projet et j'étais complètement en burn-out parce que c'était trop pour une seule personne. Donc là, je suis en train de tout doucement construire une équipe autour d'un autre projet. J'espère sera bienvenue. J'ai aussi d'autres projets en parallèle. J'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et pour lesquelles j'essaie de faire avancer les choses, toujours dans cet esprit de défendre la musique classique, de la montrer sous un jour nouveau, d'attirer des nouveaux publics vers elle, parce que je continue de le dire hein, la musique classique c'est génial, c'est créatif, c'est source d'émotions, c'est source d'imaginaire, c'est vraiment j'en ai fait ma vie, donc c'est normal que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que souvent, les gens que je rencontre, à qui je fais découvrir la musique classique, me disent « Ah, c'est marrant, je voyais pas du tout ça comme ça. En fait, c'est vachement bien. » Oui, je sais. Mais c'est pas du tout une musique intellectuelle, c'est pas du tout une musique élitiste. La musique, quel que soit son genre, est j'inclus la musique classique là-dedans, c'est de l'émotion auditive. C'est de l'émotion qui passe par les oreilles. C'est tout. Débranchez vos cerveaux, ouvrez vos cœurs, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs pour ça que mon association s'appelle In Matters of the Heart, dans les affaires des cœurs, parce que tout ça n'est qu'une affaire d'émotion et de cœur. Donc voilà, donc, In Matters of the Heart, dans les affaires des cœurs, est une association que j'ai montée avec des amis. Et qui soutiennent mes projets pour l'instant. J'espère peut-être d'autres projets, j'espère m'associer avec d'autres personnes, ça fait partie des choses que j'essaye de développer, toujours dans cet esprit donc, de défense de la musique classique et de la démocratisation de celle-ci. Voilà. On a beaucoup de choses sur le feu, mais c'est vrai que pour ceux qui ont suivi un petit peu ma saison, là, ce début d'année 22-23, avec tous les jump-ins que j'ai fait, j'ai accepté donc, les représentations du Voyage dans la lunette à Rouen, 10 jours avant le début des répétitions. Donc je suis partie à Athènes et j'ai appris le rôle en parallèle de la production à Athènes. J'ai accepté je sortais de scène de la dernière représentation d'Orphée aux Enfers à Nice et je recevais un appel au secours de Gergely Madras qui est un chef avec qui j'avais déjà eu la chance de travailler, qui m'a dit la semaine prochaine t'es libre parce que la Beto est malade. Et donc j'ai appris les béatitudes de Franck dans le train en allant à la première répétition. Et puis donc voilà, donc ça a été j'ai pas touché terre entre août et décembre. C'est vrai que là on est à peine en février, j'ai l'impression que la saison dure déjà depuis 2 ans. Mais c'est vraiment beau. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance que les gens m'appellent. J'ai beaucoup de chance de découvrir des musiques à tous les coins de rue. Je m'étais jamais attardée. Je pense que je les avais déjà entendues, mais je m'étais jamais attardée sur les béatitudes de Franck, par exemple, parce que j'avais jamais eu l'opportunité de les présenter, etc. Je suis amoureuse de cette musique. Maintenant, je l'écoute quasiment une fois par semaine. Je suis transie d'amour pour cette musique. Je tombe très, très facilement amoureuse de mon répertoire. Hein, il faut le savoir. Je suis un cœur d'artichaut musical. Je tombe amoureuse des compositeurs et des musiques très facilement. Et j'ai la chance de sans arrêt en découvrir des nouvelles et qu'on m'appelle pour toujours des projets. Après, peut-être que c'est juste moi qui suis très très enthousiaste, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on me propose, c'est incroyable et merveilleux et je suis toujours très 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 heureuse de faire partie de tous les projets qu'on me propose. Donc voilà, ça a été une saison chargée. Donc j'étais censée être en développement de projet sur mon temps libre qui finalement n'a pas été libre. Donc j'espère pouvoir très bientôt me remettre à cet ouvrage-là, les projets personnels de défense de la musique classique qui me tiennent à cœur. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.